Écho d'économie, Georges Kamoudjova.
Les infos et les analyses, comme d'habitude, sur les mines, l'énergie, les matières premières et les finances. Bref, tout ce qui façonne l'économie dans nos différentes provinces. Berry Franklin Luchaka nous accompagne pour le savoir.
Je vous amène en particulier vers la bourse de Toronto pour y voir le comportement de certains miniers qui y sont cotés. Mais au pays, Paul Kaboba nous parle de la réduction des services à la donne de Kavimvira.
Paul Kaboba que nous retrouverons au bout du fil dans 3 minutes depuis la cité de Uvira. Mais les tracasseries sur les taxes énervent les opérateurs économique de Bikoro. Ghislaine Ntobo nous en parle dans la seconde partie de l'émission. Et ce soir, l'invité de l'économie est Peter Hooper, patron de Kilo Gold Mine. Cette entreprise cotée au Canada dit réaliser des bons résultats sur la recherche d'or en province orientale. D'abord, les nouvelles au pays. Berry, retournement des situations sur les marchés de change. Le dollar repart à la hausse.
Ah oui, Georges, il faut au moins 810 francs congolais pour avoir un dollar ce soir à Kinshasa, alors qu'il y a 4 jours, la devise américaine s'est changée même à 700 francs congolais. À croire que la stratégie de vente de dollars aux banques commerciales par la Banque centrale du Congo a une efficacité très limitée. Et dans une interview publiée aujourd'hui par Le Potentiel, le président de l'Association congolaise des banques a estimé que les interventions de la Banque centrale du Congo ne remplaceront pas les exportations.
Regardons les mines avec Anvil Mining qui vend une partie de ses actions.
La compagnie recherche de l'argent pour le développement de sa mine de Kinsevere au Katanga. Elle a déjà obtenu plus de 25 millions de dollars américains avec les ventes précédentes. Anvil Mining s'interdit de vendre certaines de ses parts aux États-Unis parce que cotée à Toronto au Canada.
Et les patrons des entreprises publiques congolaises concernées par la réforme sont priés de faire l'évaluation financière globale de leur institutions.
Ils doivent le faire vite avant que ne soient lancés les appels d'offres pour les entreprises à transformer en société commerciale, en service ou établissement public. Ceci ressort de la rencontre de ce jour entre Adolphe Mozitu et les mandataires. Rencontre au cours de laquelle le Premier ministre a expliqué les idées maîtresses de la réforme engagée par le gouvernement, à savoir fin du monopole de l'État dans les entreprises afin de les ouvrir au privé pour une gestion compétitive.
Au Bas-Congo, c'est le péage qui passe au double sur la nationale numéro 1.
Une nouvelle tarification sur Kinshasa Matadi, Boma, Mwanda est en application depuis 2 jours. C'est selon les usagers de ce tronçon routier. Beaucoup des transporteurs routiers déclarent ne pas comprendre les raisons de cette augmentation. D'autres craignent qu'elle affecte le prix de transport des personnes et des marchandises.
Terminons ces nouvelles nationales avec Vouberi à Kalemi où le lac Tanganyika est toujours agité.
La tempête Saba Saba est à sa deuxième semaine. Georges, les activités de pêche tournent au ralenti à cause du lac encore inabordable. Les prix sur le marché de frétin restent pendus au double. Le MECA, unité de mesure pour les grands achats, s'est négocié entre 7 000 et 9 000 francs congolais avant cette tempête. Les populations recourent maintenant aux haricots dont le prix est fixé à 500 francs congolais pour 5 verres.
La nouvelle économique au bout du fil.
Le coup de fil de ce soir nous amène à Uvira, au sud Kivu, où l'on retrouve Paul Kaboba. Depuis près d'un mois, il n'y a plus que 4 services de l'État à Kavimvira et à Kalundu. Kavimvira, c'est le poste frontalier entre le Burundi et la cité d'Uvira. Et Kalundu, c'est le port sur le lac Tanganyika. Alors, vous qui êtes sur place, Paul, quelle est l'importance tout d'abord de Kavimvira et Kalundu dans l'économie du territoire d'Uvira?
Kamoudjova, c'est par ces entités que ce territoire reçoit l'essentiel de ses produits manufacturés qui proviennent du Burundi voisin et de l'Afrique australe via Lubumbashi, Kalemi, dans la province du Katanga. Selon l'administrateur adjoint chargé des finances d'Uvira, Kavimvira et Kalundu contribuent pour près de 90% du budget de la cité et du territoire.
Et c'est dire qu'une diminution des taxes illégales devrait avoir au moins un impact direct sur les prix à la consommation.
C'est bien cela. Si la grande partie des produits manufacturés consommés à Uvira sont délestés des taxes frauduleuses, nécessairement, l'habitant de la cité devrait sentir son portefeuille un peu soulagé, ce qui est loin d'être le cas.
Et pourquoi les commerçants ne diminuent pas les prix des produits ?
Les grossistes se félicitent de l'ordre qui règne à Kavimvira et à Kalundu, mais selon eux, les mêmes tracasseries persistent à d'autres endroits tels que Kalemi ou même sous le lac Tanganyika. Argument rejeté en bloc par les autorités de la cité. Selon eux, si si même une seule taxe frauduleuse affectait les prix à la consommation, si cette dernière est éliminée, le prix devrait baisser d'au moins un centime à plus forte raison. Quand il s'agit d'une vingtaine de taxes illégales qui sont éliminées, le consommateur devrait avoir plus de possibilités d'acheter son sel, son sucre, son savon de lessive et pourquoi pas des bonbons et des biscuits pour ses enfants.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Avant de vous quitter, rappelez-nous juste la fréquence de Radio Kapi à Uvira.
Tous les auditeurs d'Uvira peuvent se brancher sur 105.2 en modulation de fréquence.
À travers vous, nous disons donc bonne soirée à tous nos auditeurs de Uvira qui suivent en ce moment Écho d'économie.
Merci beaucoup.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Luchaka.
La crise économique, Berry, déstabilise le secteur du bois au Congo-Brazzaville.
Gel de commandes, la fermeture d'entreprises et la perte d'emplois. Depuis 8 mois, ces conséquences sont vraiment visibles, Georges. Selon l'administration forestière, l'ensemble des sociétés œuvrant dans le bois ont mis au chômage plus de la moitié de leurs agents. Au Congo-Brazzaville, le forestier est le deuxième secteur d'exploitation ou d'exportation et de création d'emplois.
Aux États-Unis, on peut dire que la consommation reprend petit à petit.
Le temps chaud de saison a stimulé tout au long de la semaine dernière la consommation avec un rebond tiré par les pharmacies, les grands magasins, les magasins à bas prix, les magasins d'électronique ou encore ceux des matériels de bureau, selon les analystes. C'est une progression d'au moins 1% des ventes réalisées au mois d'avril.
Merci beaucoup, Berry. Et merci à vous de nous avoir rejoints sur les fréquences de Radio Kapi. Vous suivez Écho d'économie qui entre tout de suite dans sa seconde partie avec un regard tourné sur Mbandaka.
Écho reportage.
Le reportage de ce soir nous amène dans l'Équateur, plus précisément à Bikoro. Les paysans accusent les différents services de l'État de leur faire payer une multitude de taxes à leur arrivée au marché central de Mbandaka. Ces paysans, vous le savez, approvisionnent la ville en manioc rouille qui sert à la préparation des chikwangs. Reportage de Ghislaine Nentobo.
Ces paysans sont ceux installés le long de la route Mbandaka-Bikoro. Il s'agit notamment des habitants des villages Bouya, Kalamba, Iboko, Boutela, Bongidji et autres. Ces gens, hommes et femmes, viennent vendre du manioc rouille à Mbandaka pour acheter en retour des produits manufacturés. Ces paysans parcourent parfois des distances de 60 à 100 km pour atteindre Mbandaka. Cependant, disent-ils, avant d'embarquer leurs marchandises à bord des camions de transport, ils payent 1500 à 2000 francs congolais par sac de manioc rouille. Une fois arrivés à Mbandaka, ils payent la taxe dénommée d'arrivage et la taxe d'étalage. Ajoutez à cela les frais de dépôt où ils gardent leurs marchandises ainsi que le droit des propriétaires de parcelles dans lesquelles ils étalent leurs produits. Et après avoir engagé toutes ces dépenses, il ne reste pas grand-chose à ces paysans. Écoutez à ce sujet quelques-uns rencontrés au marché de Mbandaka 2. Ces paysans ne comprennent pas pourquoi on leur exige ces deux taxes, la taxe d'arrivage et celle d'étalage, alors qu'ils vendent leurs produits en dehors du marché. En plus, disent-ils, on leur fait payer la taxe d'étalage alors qu'ils exposent leurs marchandises à même le sol et dans des parcelles d'autrui. Les collecteurs des taxes de la mairie au grand marché de Mbandaka 2 confirment qu'ils perçoivent effectivement ces taxes à ces endroits pour les comptes de la mairie de Mbandaka.
Ils ont savé au moins 4 taxes de Futama. Taxe Oyo, il y a arrivage et bananango depuis Kala. Bafutaka par 5. Ce qui arrive à Futi Simba la Moko. Te mokolago te kabiloko na ete mokolago sila nde akenae. Owa mama azako lela mingi eza taxi ya etalage.
Contacté, Madame le maire de la ville de Mbandaka, Eugénie Moigna, dit ignorer la perception de ces taxes en dehors du marché de Mbandaka 2. Elle promet de descendre dans les prochains jours sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Néanmoins, dit-elle, en principe, on ne pouvait percevoir des taxes dans des parcelles qui environnent ce marché jusqu'à ce que le vendeur réintègre ce point de vente après sa réhabilitation. Madame le maire Eugénie Moigna.
balabala wana na yebite barivage na yebite yekunde makila basoko oya mbanda kade en tout cas na zako ignorer yango pezana pe na chef du marché na tout na ba précision.
Malgré cette promesse du maire de Mbandaka, les paysans de Bikoro qui approvisionnent Mbandaka attendent qu'une solution soit trouvée à ces tracasseries, sinon, disent-ils, Mbandaka sera privé de Chukwang dans les jours qui viennent.
Suggestions et réactions, n'hésitez pas. Un clic. echo@radiookapi.net.
Place à l'entretien de ce jour et l'invité de l'économie est Peter Hooper. C'est vous le patron de Kilo Gold Mines. Vous venez d'entrer à la bourse de Toronto il y a juste 15 jours et votre cote a même augmenté hier avec la publication de vos premiers résultats de recherche sur l'or dans les 14 000 km carrés couverts par votre permis de recherche. Et ce sont des résultats qui confirme de bons gisements sur près de 2 km. Mais d'abord, pouvez-vous nous dire comment évoluent ces projets de Kilo Gold Mine?
En ce moment, il y a deux perceuses qui viennent de Uganda. On a fait beaucoup d'expéditions pour ouvrir le territoire. C'est un territoire, pas de rue, il n'y a pas de pont, c'est assez difficile de traverser. On vient d'arranger des autres finances, c'est fini en ce moment. Et on commence à travailler avec des perceuses dans trois endroits, avec Masters, avec IRW.
Donc vous vous limitez juste à l'exploration?
À cette fois-là, peut-être pour 2 ans. Après 2 ans, on va avoir une ressource. Après ça, on va faire des études de visibilité, ça. Et puis après ça, on va construire une petite mine. Les études de visibilité, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de l'eau, de l'électricité, la métallurgie, toutes les choses qui sont autour du projet.
À quel moment allez-vous commencer la production d'or?
3 ans. L'objectif, c'est exactement ça.
Disons en 2012.
Le premier projet commence maintenant avec le perceuse. On veut des ressources, 1,11 million, quelque chose comme ça, dans 12 mois. Après ça, il faut confirmer ces 1,11 million ou 2,11 million. Et en même temps, on commence les études. Ça peut être en 2 ou 3 ans. Ça, c'est pour sortir l'or. On va finir en 3 ans.
Le coût total de vos projets, on peut l'estimer à combien aujourd'hui?
On va dépenser 6-7 millions cette année. L'année prochaine, probablement 10. Et puis après ça, ça augmente tout le temps.
Vous êtes une petite entreprise, une junior, on peut dire. Mais tout de suite, vous entrez en bourse. Pour quel avantage?
Si on n'est pas sur la bourse, c'est impossible de financer les compagnies en ce moment. C'est pour ça qu'on est sur la bourse. Il y a des experts partout en Toronto pour supporter les petites compagnies, les juniors. Et c'est le meilleur endroit pour les juniors du monde.
C'est Toronto.
Londres est plus grand dans le secteur minier, mais c'est avec les grandes compagnies, Rio Tinto, BHP, Anglo-American. Mais Toronto, c'est l'endroit où il faut si on est un junior.
Mais de toute façon, être coté en bourse, ça exige aussi beaucoup de transparence.
Oui, exactement. C'est tout transparent. Les règles pour la bourse, on ne peut cacher rien.
Vous ne pensez pas que la crise actuelle pourra freiner certains de vos projets?
2008, c'était une année terrible. On ne pouvait pas tenir un sou. J'ai parlé avec une cinquantaine de banques, d'analystes, de compagnies. Il n'y avait pas un dollar pour les compagnies comme nous. On a eu l'advent cette année, il y a 2 mois, 5 millions dans la compagnie. On a attrapé 2 millions d'Australie, 2 de Canada, 1 de l'Angleterre. C'est dur en ce moment.
Peut-être avant de terminer, vous employez combien de personnes?
En ce moment, le bureau au Toronto, il y a 12. Et puis ici, il y a un bureau à Kinshasa, il y a un autre bureau à Beni. C'est un contrat des contracteurs d'Afrique du Sud qui vient. Il y a peut-être 50 gens qui travaillent avec eux. Tous ensemble, c'est 150, quelque chose comme ça.
Peter Hooper, je rappelle, vous êtes le patron de Kilo Gold Mine. Merci beaucoup d'être passé à Écho d'économie. L'émission a été réalisée par Daniel Tambinzoni, mise en onde par Sylvain Matundu. Berry Luchaka et Nazar Koko nous ont aidés à la préparer sous la supervision de Nicole Ngaka. Bonne soirée à tous et à demain.